The language of revolt is angry, and anger cannot be confined by politeness. F is for, well, we will let Rich Bone Mill tell you.
Alors, effectivement, on doit d'abord avertir les auditeurs, auditrices, que cette chronique va comporter du langage grossier, des jurons, des violences verbales à l'endroit des bourgeois, des politiciens et des capitalistes. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le langage ordurier, blasphématoire, pour une raison ou une autre, ben on vous invite à aller prendre une petite marche, changer de poste ou faire une tisane. Il fait très beau dehors, alors profitez-en. Alors, aujourd'hui, donc, on aimerait parler du ton et du niveau de langage dans le discours politique, notamment du tone policing, ou la police du ton, qui sert à limiter et circonscrire le domaine du discours politique acceptable. Donc, dans l'abécédaire anticapitaliste, l'entrée d'aujourd'hui est le F pour « fuck la politesse ». En 2011-2012, la CLAQ a produit une série de brochures correspondant à une campagne d'éducation populaire qu'on a affectueusement baptisée à l'époque « des hosties de crosseurs capitalistes ». Alors, j'imagine que la plupart des gens ne seront pas étonnés d'apprendre que la CLAQ reçoit assez régulièrement du « hate mail », en fait, plus ou moins après chaque action qui est organisée par la CLAQ. Et ça va de la menace violente au bitchage passif-agressif en passant par les commentaires conspirationnistes d'illuminés en déficit d'attention. Mais un des commentaires qu'on reçoit le plus fréquemment concerne le langage et le ton de nos publications ou de nos sorties publiques. Selon ces personnes-là, ça serait tout simplement impossible de prendre la CLAQ au sérieux à cause du ton, du langage et du vocabulaire qu'elle utilise. Autrement dit, parce qu'on sacre publiquement, qu'on dit des gros mots, qu'on insulte les politiciens, les capitalistes, eh bien, tout le contenu, tout le fond du discours n'a plus aucune valeur. Alors, c'est quand même étonnant. Il y a là deux jugements de valeur qui s'opèrent en même temps. Premièrement, le discours impoli est jugé fondamentalement mauvais. Et conséquemment, seulement le discours poli est acceptable. Et deuxièmement, si tu emploies un discours impoli, alors rien de ce que tu dis n'a de valeur. Alors aujourd'hui, je propose d'examiner cet argument-là de plus près. Alors, une des premières choses, en fait, qu'il faut souligner, c'est que les différents niveaux de langage reflètent souvent, sinon tout le temps, différentes positions et intérêts de classe. Tout comme le contenu du discours politique acceptable et les modes d'action politiques acceptables sont balisés par des valeurs dominantes qui sont perpétuées par les institutions bourgeoises, comme la politique représentative, les médias, le système d'éducation, les organisations aussi reconnues de la société civile, etc., donc en grande partie par la classe qui est au pouvoir, politiquement, mais aussi culturellement, comme, bon, l'école et les médias, ben, le niveau de langage acceptable, lui aussi, et le vocabulaire et les modes d'expression acceptables pour s'exprimer politiquement sont définis aussi par les intérêts de classe au pouvoir. Qui a le contrôle du langage dans la société? Eh bien, on n'a qu'à examiner qui détient le pouvoir. Qui est au gouvernement, par exemple? Alors, gouvernement au Québec, actuellement, c'est des médecins, des avocats, des comptables, des professeurs d'université, des anciens journalistes, etc. Donc, des gens qui sont en position de privilège par rapport à l'immense majorité de la population. C'est des gens qui ont généralement un niveau élevé d'éducation formelle, ce qui leur a permis d'occuper des positions stratégiques dans la société. C'est grosso modo ce qu'on appelle la bourgeoisie. Il est donc conséquent que ces personnes-là, qui sont en position d'autorité et de privilège, définissent ce qui constitue le discours et le langage normal des affaires publiques. Le langage normal, le ton normal, le vocabulaire normal, qui se reproduit dans la sphère publique, dans la culture dominante, à l'école, à l'université, dans les médias, etc. Et quand on dit normal, il faut bien comprendre que c'est normatif, c'est-à-dire ce qui est constitué comme la norme. Cette norme-là n'est évidemment pas objective, elle est conditionnée. Et elle est conditionnée par les intérêts de classe des individus, des groupes et des institutions de la classe dominante. À l'opposé, les exclus des positions de privilège dans la société, notamment les personnes qui sont à faible niveau d'éducation, les travailleurs-travailleuses non qualifiés, les personnes qui font partie de groupes marginalisés, les personnes à faible revenu, les assistés sociales, la majeure partie de la classe ouvrière aussi, par exemple, au jour le jour s'expriment avec un tout autre niveau de langage, un tout autre vocabulaire et un tout autre ton de voix, souvent, de manière générale, que le discours poli, acceptable, propre, sans aspérité des institutions public. Le langage de la plèbe, pour s'approprier un mot qui est justement un mot péjoratif, qui appartient davantage au langage savant, est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus coloré, beaucoup plus rude, agressif parfois, en tout cas beaucoup moins limité et circonscrit, moins policé que le langage poli. Bref, c'est un langage qui est libéré, qui est décomplexé, qui est déconstipé par rapport au langage poli. C'est une forme de langage qui, pour le dire crûment, se calissent de la politesse. Et j'ai envie justement d'illustrer mon propos avec quelques exemples. Quand on dit « le ministre Barrette est un crisse de chien sale fini », c'est évidemment pas la même chose que de dire « le ministre Barrette est un fieffé coquin ». Quand on dit « le Parti libéral du Québec est un ramassis d'hosties de crosseurs », comme on le dit souvent à la claque, ça n'est pas la même chose que de dire « le PLQ est peuplé de prévaricateurs et de fraudeurs notoires ». Ou l'hostie de crosseur capitaliste Peter Sargakis est un mangeur de marde pourri sale du calice. C'est pas la même chose que le spéculateur immobilier bien connu Peter Sargakis est visé par des allégations de malfaisance. Donc, il y a effectivement un contraste net entre le langage bourgeois et le langage de la rue, le langage du populaire. Le deuxième point qu'on aimerait souligner, que dans le discours politique, dans la mesure où il y a effectivement, on vient de le voir, bel et bien un élément de classe dans le ton, dans le niveau de langage, l'expression de la colère appartient aux révoltés. Le ou la révolté, l'insurgé, la révolutionnaire, par définition, est toujours du côté des exploités. C'est pourquoi le vocabulaire de la révolte, à la fois, reflète la réalité des exploités, donc la colère, l'exaspération, mais c'est aussi en même temps pourquoi ce vocabulaire-là s'adresse aux exploités en priorité. Quand on dit « attaquons les hosties de crosseurs capitalistes », on ne s'adresse pas aux personnes qui sont bien adaptées au système, à celles et ceux qui ont un spot confortable dans l'ordre des choses, à ceux qui, en d'autres mots, n'ont pas vraiment intérêt à attaquer les hosties de crosseurs capitalistes. Mais on s'adresse à celles et ceux qui sont coincés dans ce système-là, qui sont écrasés sous son poids, qui en subissent les injustices, celles et ceux qui ont intérêt, bref, à attaquer les hosties de crosseurs et à renverser l'ordre des choses. Autrement dit, si toi, dans ta vie, tu as la chance de ne jamais être en colère, de jamais être en tabarnak devant l'injustice que tu subis toi-même ou que d'autres subissent, si tu as la chance de ne jamais ressentir la révolte dans ton fort intérieur, ben c'est probablement parce que tu jouis d'un certain privilège par rapport à d'autres segments de la population qui subissent continuellement l'injustice, l'exploitation ou la domination. C'est un luxe et un privilège, en d'autres mots, de pouvoir toujours être posé, calme, relax dans son langage et dans son ton de voix et adopter un vocabulaire bienséant. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le ton au niveau de langage reflète des positions de classe. Et l'acceptabilité de tel langage par rapport à tel autre langage reflète forcément les dynamiques de la lutte de classe. Évidemment, là, quand on parle de discours impolis, dans ce contexte-ci, on ne parle pas de propos sexistes, racistes ou homophobes, comme la marde qu'affectionnent particulièrement les pauvres petits humoristes québécois victimes de censure. On parle évidemment d'un langage grossier qui est utilisé pour, comme on dit en anglais, « punch up », c'est-à-dire pour attaquer les personnes qui sont en haut, qui sont en position d'autorité ou de pouvoir, en position dominante, et non pas pour « puncher down » ou dénigrer les personnes qui sont justement en position dominée ou marginalisée. Une autre chose qui est intéressante à constater, comme je l'évoquais au début de la chronique, c'est que cette dichotomie-là dans le langage politique acceptable versus inacceptable est parallèle non seulement aux différents contenus du discours politique, mais aussi aux différents modes d'action politique. Par exemple, l'émeute est toujours située en dehors du domaine de la démonstration acceptable d'une volonté politique ou d'un projet politique. Non seulement c'est inscrit au code criminel comme une transgression punissable légalement, mais c'est jugé dans la société dominante par rapport aux valeurs dominantes comme moralement inacceptable ou inadmissible. Il y a donc un jugement de valeur qui est opéré, pas seulement au niveau des critères codifiés de la justice bourgeoise, mais aussi au niveau formel et informel des valeurs culturelles bourgeoises. Même chose en ce qui concerne le contenu du discours. Il est correct de rester à l'intérieur de certaines limites bien définies, mais ça devient vite inadmissible, ça devient une transgression que de remettre en question ces limites-là, par exemple, et en appeler ouvertement à l'insurrection ou à l'émeute. Le dernier élément que j'aimerais aborder, c'est la question justement que j'évoquais tout à l'heure du « tone policing », cette attitude consistant à culpabiliser l'expression de la colère, de la révolte, notamment en discréditant ou en délégitimant le contenu d'un discours politique en fonction du ton, du niveau de langage ou du vocabulaire qui est employé. C'est une attitude qui est très, très souvent genrée. L'exemple classique est de dire « calme-toi, tu es hystérique » ou « on s'en reparlera quand tu seras calmé » ou pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on peut pas prendre ce que vous dites au sérieux parce que vous le dites sur le ton de la colère ou du blasphème. Alors ça, c'est carrément soit jouer le jeu de la classe dominante, soit tomber dans le panneau de reproduire les schèmes de communication qui servent les intérêts de la classe dominante. C'est reproduire le statu quo, donc défendre les dominants contre les dominés. Alors, quand nous, à la claque, on reçoit des courriels de ce genre-là, souvent, c'est accompagné d'un commentaire du genre « mais il y a une majorité, vous réussirez jamais à convaincre la majorité de votre point de vue si vous utilisez un langage qui rebute la majorité des gens, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas à la majorité, c'est pas à monsieur et madame tout le monde qu'on s'adresse. D'ailleurs, on sait pas c'est qui, ça, monsieur et madame tout le monde, et on s'en calisse. On s'adresse, nous, spécifiquement à celles et ceux qui sont écœurés de rester polis, qui sont tannés de rester calmes et qui sont en tabarnak. À celles et ceux, donc, qui se reconnaissent dans le ton et dans le langage de la révolte. Et en passant, pour chaque courriel qu'on reçoit qui nous donne de la marde parce qu'on utilise un langage indigne et blasphématoire, puis que les anticapitalistes sont des trolls mal éduqués, eh bien, on en reçoit 3, 4, 5 qui nous disent de continuer le bon travail. Alors, c'est quand même un bon ratio. Je pense qu'on va continuer sur la même voie. Quand les militants et militantes du Comité des sans-emplois Montréal-Centre ont commencé à employer régulièrement l'expression « hostie de crosseur », il y a presque 20 ans de ça, c'est pas seulement les BCBG, les bourges qui s'offusquaient puis qui disaient qu'on devrait pas utiliser des gros mots, il y avait aussi des militants de la base, des sans-emplois, des assistés sociaux, qui étaient en quelque sorte conditionnés à penser qu'il fallait nécessairement bien s'exprimer, bien parler avec les beaux mots, avec le langage de l'oppresseur. Mais on a persisté, conscient que, justement, ce mode de discours-là s'inscrit dans une tradition anticapitaliste qui tient, entre autres, les mouvements contre-culturels et radicaux des années 60, 70 et 80. On continue à utiliser ce langage-là de la colère, de la révolte, de la transgression. Et toutes ces années plus tard, c'est maintenant rendu plus ou moins normal, si on veut. Au 1er mai dernier, d'ailleurs, les médias ont publié de longs extraits des discours et communiqués de la claque, y compris des formules blasphématoires comme « Depuis 1880, la haute bourgeoisie canadienne se réunit dans un club privé, le Club Saint-James, pour les grands rendez-vous des hosties de crosseurs. » Et ça a été publié dans la presse. Donc, en conclusion, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut nécessairement sacrer, jurer, blasphémer, utiliser toutes sortes de gros mots d'injures diffames dans notre discours. L'idée, c'est plutôt de s'ouvrir à une diversité de niveaux de langage, de modes d'expression dans le discours politique, et surtout de refuser de se laisser restreindre à certains vocabulaires ou modes d'expression qui correspondent en fait à des valeurs culturelles dominantes. De la même manière qu'on refuse de se laisser limiter à certains modes d'action qui ne remettent pas en question ou ne menacent pas concrètement l'ordre bourgeois dominant. Comme on dit, ne pas s'en tenir à la démocratie parlementaire comme seul moyen d'action politique ou à la manifestation pacifique ou la pétition comme seul moyen de protestation acceptable. On dit que le langage poli n'est pas la seule forme d'expression acceptable du discours politique et surtout que le langage colérique ou blasphématoire est calissement légitime et approprié pour un discours politique qui se veut en rupture complète avec l'ordre actuel des choses, dont l'hégémonie capitaliste et les valeurs bourgeoises qui la sous-tendent. Il faut libérer le langage impoli, il faut le placer au service de la révolte, de l'émeute, de l'insurrection et de la révolution. Fuck la politesse.